Bonsoir et bienvenue dans Ondes Noires, l'émission qui aime le polar et le roman noir.
Bonsoir Jacques.
Bonsoir Corinne, bonsoir à tous.
Et voilà, donc dans cette émission, nous allons commencer par une interview d'une auteure que vous allez découvrir, ou peut-être que vous avez déjà découverte, Catherine Guchet. Et puis dans une deuxième partie, nous vous parlerons de quelques livres qui ont retenu notre attention, avant d'attirer la vôtre,
évidemment,
bien sûr. Donc je pense qu'on a en ligne Catherine Guchet, bonsoir.
Bonsoir.
J'ai bien prononcé votre nom ?
Tout à fait.
Voilà. Donc, merci d'abord de nous rejoindre, parce que c'était pas si évident que ça. Donc, merci de vous être rendue disponible. Et j'en suis très heureuse parce que votre premier roman, Transcolorado, qui est paru au début de l'année aux éditions Gaïa, est un très joli coup de cœur pour moi. Donc, je suis très contente de pouvoir en parler avec vous. Un mot de présentation, vous êtes enseignante-chercheur en sociologie, je crois, je ne me trompe pas.
C'est cela, je suis enseignante-chercheur en sociologie à l'université de Grenoble.
On peut évoquer juste en un mot les thèmes de recherche ou...
Alors, je travaille depuis de nombreuses années sur les thématiques du vieillissement et de la place des retraités et personnes âgées dans la cité, sur le vieillissement dans les espaces ruraux, sur ces questions-là.
On est alors, je vais raccrocher le fil avec le mot rural, puisque votre roman premier donc est paru dans une édition qui n'est pas vraiment Gaïa fait beaucoup de polars, mais c'est pas Gaïa noir, donc c'est pas vraiment un polar. Pour moi, c'est un grand roman noir, et je dirais qu'il se rapproche un peu du nature writing, de cette littérature des grands espaces américains. Je me trompe ?
Tout à fait. Alors je suis une fan de cette littérature que vous évoqué. Je suis d'une manière plus générale très intéressée par toutes les littératures dans lesquelles finalement on pourrait dire que le personnage principal c'est un terroir, c'est un paysage je suis évidemment davantage intéressée par les grands espaces, par les espaces donc ruraux, par les espaces déserts, dans lesquels la trame des vies s'inscrit de manière toujours singulière.
Alors singulière, c'est le moins qu'on puisse dire. On peut dire singulière, c'est un très joli qualificatif pour Dan. Alors Dan, c'est une fille, une femme. Elle vit dans ces grands espaces et je vous cite, elle n'aime pas les ciels trop bleus, cette lumière tranchante et sans pardon, comme si tout était neuf. Alors j'aimerais que vous nous la présentiez, cette Dan, parce que vous avez tellement d'affection pour elle.
Alors, je pense déjà que volontairement, dans ce roman, je n'ai pas donné une très grande description de Dan. Donc, ce qui fait que chacun peut se la représenter à sa manière. Mais pour moi, Dan, c'est avant tout quelqu'un, une personne qui est dans la première partie de son parcours de vie, qui se cherche, qui est en quête de son identité, qui hésite peut-être un peu entre le féminin et le masculin, qui a rencontré de grosses difficultés dans son existence d'enfant et d'adolescent, et qui malgré tout va chercher à tracer un chemin et va trouver finalement des voies de ce que je qualifierais de résilience pour devenir ce qu'elle est vraiment.
Et pour cela, il va lui falloir, dans cette résilience, beaucoup d'épreuves. C'est aussi une femme de silence. Vous dites d'elle, elle doit prendre soin des mots utiles. Elle ne dit pas un mot de trop.
Tout à fait. Alors, ça, c'est aussi un choix d'écriture. Ce qui m'intéresse le plus, c'est de tenter d'écrire le silence. C'est une gageure, mais je pense qu'il peut y avoir dans les paroles sobres, parfois austères, de certaines personnes, autant de poids que dans des discours très bavards. Et ce que j'ai envie de rendre, c'est la qualité, la densité, l'épaisseur, on pourrait dire, de ces vies qui sont souvent des vies de taiseux, mais qui malgré tout ont beaucoup à nous dire et à nous apprendre sur le sens de l'existence.
Parce que peut-être aussi, vous parliez de votre appétence pour les grands espaces et cette littérature qui s'y déroule, peut-être aussi parce que ces personnages et les personnes, les vraies personnes de chair et d'os aiment écouter ces silences dans ces grands espaces assez taiseux aussi.
Tout à fait. Il y a dans le silence de ces espaces, de ces paysages, il y a quelque chose qui renvoie de manière un peu incontournable à soi-même et au plus profond de soi-même.
au plus profond de soi, d'elle-même, d'Anne, c'est pas facile pour elle. Vous dites, elle a des araignées dans la tête qui se diluent dans l'alcool. Trop de décombres, vous dites. Et donc elle va dans un endroit. Alors ça me fait penser à certains films. Et vous allez me dire comment vous est venue cette idée de ce rad qui s'appelle le bout de la route. Ça c'est magnifique. J'aimerais tellement avoir un bar qui s'appelle le bout de la route.
Alors le bout de la route, c'est l'idée que ici tout pourrait s'arrêter. C'est un bout. C'est-à-dire c'est le bout d'un chemin qui a déjà été fait. Tout pourrait finir aussi ici, mais c'est aussi là que tout peut commencer. Pour aller dans des espaces dans lesquels il n'y a pas encore de route, dans lesquels les chemins sont à inventer, sont à tracer, et c'est ce que Dan va faire avec l'Apache.
Avec son Apache, avec Tommy. Mais pour cela, elle va certainement réinventer des routes, mais personnage aussi très important dans votre roman, c'est le bus, qui lui va K1K sur des routes et des petits chemins, mais c'est ce Transcolorado qui donne d'ailleurs le titre à ce roman.
Alors, ce bus, c'est à la fois le trajet que fait Dan au quotidien, finalement, pour se soustraire à la pesanteur des ciels trop bleus. Ce Transcolorado, c'est aussi une figure un peu maternelle, parce qu'à bord de ce bus, Dan se fait bercer. Et puis, c'est ce Transcolorado l'emmène sur des routes, des allers-retours, avant qu'elle puisse finalement trouver une sa route à elle.
Et en plus, c'est aussi, bon, elle aime être à l'extérieur, mais c'est aussi une manière d'être, de rester dans un cocon, de rester quand même enfermé dans un lieu clos au milieu de ces grands espaces, finalement.
Tout à fait. C'est pour ça que j'évoque une figure maternelle, parce que c'est quelque chose qui est de l'ordre du bercement. D'un lieu, un refuge.
Alors, le refuge, peut-être, on va le découvrir au fil de vos pages, c'est la page, on vient de l'évoquer. Tommy, alors lui aussi, il a quelques casseroles dans son histoire personnelle. On en dit deux mots un petit peu d'où il revient, pas d'où il vient, d'où il revient.
Alors, d'où il revient, Tommy, c'est quelqu'un qui a une longue histoire, qui a surmonté des cicatrices, celles qu'il a sur le visage, mais aussi celles que lui ont laissé les coups qu'il a pu donner. Et avec tout cela, il s'aventure ou il s'avance vers une existence plus pacifiée, mais qui passe par un combat pour sauver une forêt.
Une forêt qui pourra peut-être être un jour un refuge. Alors on est souvent dans votre roman, dans l'histoire de Dan, de Tommy, de Joe aussi, qui est le propriétaire du bar, qui est un magnifique personnage. On est très souvent dans les mythes. Alors vous avez parlé des cicatrices de Tommy, c'est un peu des stigmates. Et puis, il y a ces itinéraires que l'un et l'autre vont entamer et où ils vont passer beaucoup d'épreuves, finalement, qui sont autant, je dirais presque, d'épreuves bibliques.
Alors, tout à fait. Il y a un passage de mon roman qui se passe dans une communauté amish. Donc, la question qui est derrière ce passage dans la communauté amish, c'est comment croire ou trouver de la force d'espérer. Et au fond, c'est ces questions qui animent mes deux personnages, et ils vont procéder un peu par essai-erreur tout au long de leur parcours pour trouver des raisons de croire. Et finalement, on peut dire que c'est dans l'amour qu'ils vont trouver ces raisons d'espérer et ces raisons de continuer un chemin, d'inventer un chemin qui sera finalement le leur et qui leur permettra de sortir des ornières dans lesquelles ils étaient jusqu'à ce moment-là.
Joli mot, ornière, pour un roman de la route. Une des ornières, on pourrait penser que cette communauté amish, Jonas, Anna, ça va être un nouveau aussi havre maternel, peut-être, qui pourrait bercer Dan. Mais en fait, à bien y creuser, c'est pas vraiment un bel endroit. C'est pas tellement un lieu de liberté, on va dire.
Non, c'est un lieu dans lequel Dan va croire l'espace d'un moment, qu'elle peut retrouver des cadres, qu'elle peut retrouver une figure maternelle, qu'elle peut retrouver des figures masculines qu'elle pourrait respecter. Et puis, très vite, la violence que lui fait cette communauté amish à travers l'imposition de règles auxquelles elle ne peut pas se soumettre, cette violence fait qu'elle va prendre conscience que il faut qu'elle apprenne seule et que ce n'est pas dans la soumission à un autrui qui la dominerait qu'elle va pouvoir trouver sa route.
Et on espère pour elle tout au long, c'est en quelque sorte un, je dirais pas un ressort narratif, mais c'est presque, voilà, je parlais de roman noir, on n'a pas une enquête, mais on a une quête finalement.
Tout à fait. Et il y a cette quête de soi, avec toutes les difficultés, toutes les aventures manquées, toutes les blessures qu'il faut recoudre pour continuer à avancer.
Et on est toujours dans les mythes. Une des premières phrases quand Dan découvre Tommy, une des premières phrases qu'on entend de lui, c'est « Si Adam et Ève n'avaient croqué la pomme ». Donc finalement, on a aussi cet itinéraire qui va être une continuelle rédemption, tout au moins dans leur esprit.
Oui, et c'est aussi l'idée du dialogue entre la liberté et le destin. Au fond, est-ce que l'existence de Dan se situe dans quelque chose qui est écrit depuis toujours et dont elle ne pourra pas sortir, ou est-ce que, malgré, on pourrait dire, ses casseroles initiales, elle peut faire acte de liberté, elle peut avancer.
Elle peut pas avancer toute seule. Elle va croiser de très beaux personnages. J'aimerais un petit peu savoir comment vous avez concocté, comment vous avez inventé ces personnages, ou peut-être pas du tout, le couple qui va l'aider à la fin, Tommy, Joe, comment ils sont apparus petit à petit?
Tout au long du roman, la question de la figure paternelle et de la figure maternelle est là. Enfin, elle traverse tout l'écrit. Alors, ensuite, la figure de Joe, c'est la figure d'un substitut paternel. C'est quelqu'un qui peut être là, qui apporte un réconfort, même si c'est pas forcément le réconfort le plus judicieux, mais qui apporte un réconfort, qui accompagne et qui va prendre la place du père absent. Et le couple Bloss, c'est l'image d'un foyer. C'est l'image de ce que peut être un foyer et que Dan n'a pas connu, et en conséquence qu'elle a du mal à créer pour elle-même parce qu'elle n'a pas de référence. Elle ne sait pas comment on fonctionne dans une famille ordinaire, j'ai envie de dire. Et le couple Bloss vient comme une espèce de point de référence qui va lui permettre d'apprendre.
Alors il y a ces couples références, ces personnes humaines, et puis il y a aussi d'autres êtres vivants auprès de qui elle va chercher le réconfort, c'est les Appaloosas, ces chevaux. Donc moi je connais pas le Colorado, il doit y en avoir beaucoup là-bas, je sais pas trop.
Alors, pour tout vous dire, je ne connais pas le Colorado non plus. Donc, c'est une production de mon imaginaire. Le Colorado tient beaucoup de place dans mon imaginaire, mais je ne suis jamais allé au Colorado. Et le cheval, donc la Palouse, est finalement le confident. C'est celui qui permet à Dan de dire ce qu'elle a à dire sans avoir d'exigence dans la manière de le dire. Donc elle entretient finalement une sorte de dialogue avec cet animal qui lui permet en même temps de dialoguer avec elle-même.
Oui, et puis d'avoir un langage corporel, je pense aussi. Enfin, j'ai cette idée.
Tout à fait.
Puisque c'est pas facile pour elle de communiquer avec les autres êtres humains, avec les chevaux, c'est peut-être plus facile. Et je terminerai par une dernière question qui est peut-être un des fils conducteurs de votre écrit. C'est que finalement, quel que soit le bus qu'on prend, la route qu'on fait, faut quand même rentrer chez soi un jour.
Tout à fait. Et c'est vraiment, quand vous parliez, vous disiez, c'est pas une enquête, c'est une quête. C'est vraiment ce que j'ai essayé de mettre en lumière. Et de mettre aussi en lumière le fait que, quelles que soient les ornières, encore une fois, il y a, à condition de faire quelques rencontres ou de trouver quelques supports, il y a une possibilité de construire un chemin dans la liberté.
C'est une jolie conclusion. Donc, je vais rappeler le titre, Transcolorado. C'est sorti, je crois, au mois de janvier. J'ai dit au début de l'année, oui. C'est au mois de janvier, chez Gaïa, aux éditions très, très belle collection et très beaux éditeurs, dans un joli format, une jolie couverture. Vous savez, c'est vous qui avez choisi la couverture ?
Non, ça, c'est le travail de mon éditeur. Et vraiment, c'était une belle réussite, je trouve.
Oui, ça, je trouve que ça va très bien en écho avec vos mots et vos silences, Catherine Guchet. Encore une fois, une très jolie découverte. Donc, Catherine, merci beaucoup. Et puis, je pense que vous travaillez un autre livre maintenant ?
J'ai commencé.
Vous avez le temps, c'est bien. Continuez, continuez, on a hâte de vous relire.
Merci beaucoup.
Merci beaucoup, Catherine Guchet. Au revoir, bonne soirée.
Au revoir.
Voilà, donc on vient de parler de ce livre, Transcolorado. Donc je redis, hein, l'éditeur chez Gaïa, une très très belle découverte, parce que pas dans un éditeur polar, et donc des fois c'est un petit peu plus dur à aller dénicher. Alors,
Dit, la couverture avec cette orange là, elle flash bien, on devrait pouvoir la repérer sur une
orange,
une table,
oui, orange, orange jaune, oui, ouais. Oui, ou demander à son libraire favori. Donc on va terminer cette émission.
On fait la première partie, tout le
temps. La première partie, bien évidemment. De temps en temps, on aime bien citer, on les cite pas tous, hein, mais là, voilà, il est 18h27, il doit être à peu près la même heure à Paris, et dans 3 minutes seront décernés les prix mystères de la critique. Donc, tant qu'à faire, on fait un simultané, hein, on fait un direct. Alors bon, je vais oser les annoncer, mais je pense que c'est quand même pas un gros secret. Les deux prix mystères de la critique pour l'année 2017, qui sont donc des romans 2016.
Et un prix qui est décerné par des critiques...
Voilà, des critiques de polar, et le prix est soigneusement entretenu et ravivé chaque année par Georges Ruben. Donc, vont être décernés le prix mystère de la critique pour un roman français qui s'appelle Rien ne se perd, de Chloé Mehdi, et c'est aux éditions Gigale. Et puis, en premier ex-aequo, Cartel, c'est un roman dont on vous a parlé,
dont
Jacques vous a parlé il n'y a pas si longtemps que ça. C'est un roman de 2016, hein, donc c'était l'année dernière, mais il n'y a pas si longtemps. Cartel est un roman de Don Winslow. C'est paru aux éditions du Seuil, aux éditions du Seuil. Et évidemment, si on peut profiter des mots des écrivains américains, c'est qu'on a d'excellents traducteurs.
Et celui qui a traduit Cartel, donc, c'est Jean Hesch.
Voilà, un très très bon traducteur. Voilà, Cartel, Don Winslow, Rien ne se perd, Chloé Mehdi. Ça aussi à aller chercher chez son libraire favori. On vous retrouve dans quelques minutes et on vous laisse profiter des infos, peut-être un peu de notre générique. À tout de suite.